Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Et bonne année.
Bonne année à vous.
Mais bonne année.
Et je suis heureux de vous retrouver. Une année qui commence fort sur la scène politique. Une année qui a commencé par cette polémique dont on a tous entendu parler en pleine vague du variant Omicron. Le président de la République a suscité la polémique dans un entretien qu'il a donné au journal Le Parisien avec des propos très durs envers les personnes non vaccinées. Il y a deux citations que je retiens, j'ouvre les guillemets, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, ou cette autre, un irresponsable n'est plus un citoyen. Stratégie assumée, la preuve par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, il défendait Emmanuel Macron et ce qu'on peut appeler la stratégie de l'emmerdement.
Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent « mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner ». Nous, nous avons toujours fait le choix, avec nos soignants, de soigner tous les Français qui étaient frappés par la maladie. C'est un choix en responsabilité. Mais la responsabilité, c'est aussi de prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement lors de son point presse hebdomadaire, et vous vouliez y revenir, Gilles, malgré tout ce qui a été dit, le flot de commentaires qu'a suscité le président de la République dans cette interview du Parisien.
Oui, nous allons revenir sur l'ensemble de cette interview, et pas seulement sur ces deux phrases, mais je dois dire que au moment où cette nouvelle année commence, on a à la fois le virus qui galope et cette campagne qui consterne. La pré-campagne avait été médiocre avant les vacances d'hiver. Cette première semaine est nulle.
Nulle.
C'est nul. À tel point que on finit par avoir la crainte, pour détourner le titre de la pièce de Jean Giraudoux, l'élection présidentielle n'aura pas lieu. Une élection présidentielle, c'est pas seulement une opération électorale. Une élection présidentielle, c'est la confrontation entre des visions, des valeurs, des propositions. Or, on a eu toutes ces dernières campagnes, depuis 15 ans, des campagnes qui n'en finissaient plus, qui étaient des campagnes très longues. Cette fois-ci, on a une campagne qui n'arrive pas à commencer. Et on voit que l'agenda est phagocyté, on le comprend, par l'explosion du virus.
Oui.
Et le reste est accaparé par des polémiques d'une médiocrité sans nom.
C'est rare, Gilles, et les auditeurs, ceux qui nous écoutent le savent, c'est rare de vous entendre employer des mots aussi durs, et en l'occurrence, la façon dont vous qualifiez cette campagne ou pré-campagne présidentielle, quand vous dites consternant, nul, médiocre.
Oui, parce que je pense qu'il y a un risque collectif maintenant qui est un risque absolument majeur. J'ai été frappé juste avant les vacances, nous avons fait avec le journal Le Point et la Fondation Jean Jaurès et Viaus une enquête qui était la deuxième édition du baromètre des émotions.
Oui.
On essaye de mesurer les émotions que suscite un certain nombre d'événements. Lorsque on dit aux Français campagne présidentielle, qu'on leur propose un certain nombre d'émotions, d'émotions positives, d'émotions négatives, je vais vous lire la liste des émotions qu'ils retiennent. Certains, il y a un mot là-dedans qui est un intrus, qui est le mot espoir pour une petite partie des Français. Le reste, c'est quoi dans l'ordre?
Oui.
Indifférence, incompréhension, colère, dégoût.
Dégoût.
Ennui, désespoir, peur et honte. Et donc, on sent monter une consternation collective devant cette non-campagne présidentielle, avec derrière le risque d'une abstention électorale et derrière le risque d'un président qui soit élu sans mandat et sans légitimité. Donc, l'élection commence à approcher, vraiment.
Oui.
Cette crainte, je crois, est forte. Et donc, il faut, je crois, collectivement réagir. C'est vrai pour les candidats, mais c'est vrai pour les médias, c'est vrai pour les intellectuels, les acteurs de la société civile. Comment on fait pour ne pas se laisser engluer dans cette campagne médiocre?
Et dans des polémiques stériles, on va justement parler du fond dans un instant, Natacha Polony.
Je souscris à ce que vient de dire Gilles, qui est selon moi une partie importante du problème, et en effet je suis d'accord, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas avoir de campagne présidentielle, puisque déjà la précédente n'avait pas eu lieu. On avait parlé costume pendant à peu près toute la campagne. C'est en train de se reproduire. C'est un des aspects du problème. Il y en a un deuxième, selon moi. C'est le fait que cette interview présidentielle est révélatrice de quelque chose de beaucoup plus profond. On n'est pas seulement sur une polémique. On n'est pas seulement sur une petite phrase, comme il y en a d'autres dans cette campagne, en effet totalement consternante. Parce que ça révèle un mouvement de fond. Pourquoi ? Parce que, non pas parce que le président de la République prononce un gros mot, et là c'est ce que beaucoup ont retenu et c'est ce qui choque la plupart des gens, or moi ce qui me choque profondément, c'est la conception qu'il a de la communauté politique. Il y a quelque chose qui est apparu dans cette interview, qui est majeur, c'est la notion d'une troisième voie entre ce qui est légal et ce qui n'est pas légal.
Comment ça ?
Et je crois que c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que, en démocratie, la loi est délibérée collectivement, elle régit les comportements de la communauté politique, parce que, et chacun l'accepte, parce que, en effet, c'est une délibération collective. Donc, ce qui n'est pas légal est autorisé. Et là, nous faisons rentrer dans le champ politique, une autre catégorie qui est la catégorie morale. C'est-à-dire qu'en gros, les non-vaccinés, sans qu'on sache d'ailleurs pourquoi ils sont non-vaccinés, parce que pardon, mais ils ne sont pas tous anti-vax, les non-vaccinés. 40%, c'est une étude là qui vient de paraître qui le dit, 40% sont tout simplement des gens qui sont éloignés de l'information, des centres de santé, et qui donc n'ont aucune intention de ne pas se faire vacciner, mais tout simplement ne savent pas, n'ont pas accès. Bon. Mais donc, ces gens-là, qui n'enfreignent pas la loi, hein, puisqu'il est autorisé, il n'y a pas d'obligation vaccinale, donc ils ont l'autorisation de ne pas être vaccinés. Eh bien, on les désigne, le président de la République, garant des institutions, les désigne comme étant des personnes qu'il va falloir mettre au ban de la société.
Mais ce qui vous a choqué, c'est l'idée qu'ils sont irresponsables.
Alors,
et que l'irresponsable n'est pas un citoyen.
Une chose de plus, voilà, c'est que cette notion de responsabilité est en effet au cœur de la question de la démocratie. Je le dis assez souvent dans cette émission, pour moi, il me semble que la démocratie est fondée sur l'idée d'individus rationnels qui sont des citoyens, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes et responsables. Sauf que là, en l'occurrence, Emmanuel Macron tord cette notion de responsabilité. Pourquoi ? Parce que la responsabilité, c'est justement la capacité à pouvoir répondre de ses actes, à les assumer et, en l'occurrence, même à en répondre devant la justice. Or là, il construit une notion qui semble la même, celle de, donc l'opposé de la responsabilité qui est l'irresponsabilité, mais une irresponsabilité qui est décidée, désignée par une partie, par des élites, ceux qui pensent bien, le cercle de la raison, je ne sais quoi, qui décident qui est responsable et qui est irresponsable. Ce qui n'est plus du tout la même notion et qui a même tendance à pathologiser parce que ça se rapproche de la notion d'irresponsabilité en termes quasiment psychiatriques. Et donc, on est en train de nous expliquer qu'il y a des gens qui ne sont pas des citoyens autonomes et responsables. Et la question est de savoir qui décide, ceux qui sont responsables et ceux qui ne le sont pas. Il y a là donc une conception fondamentale de la démocratie. Je pense que ça rejoint la notion de centrisme autoritaire que j'ai déjà évoquée ici. On est dans l'affirmation d'une idée profondément autoritaire et j'irai même plus loin pour le coup, totalitaire, dans la mesure où, en effet, on veut régir la société par des caractères moraux plus que légaux. Ça me semble dangereux.
Gilles,
On a terminé l'année fatiguée, hein, c'était le mot qui ressortait. Là, je vois que tout le monde, en plus, est exaspéré. Moi, ces propos, les deux, ceux que vous avez cités, suscitent en fait, une forme d'incompréhension.
Vous qui êtes un observateur scrupuleux de la vie politique et des mots qu'emploient les hommes et femmes politiques.
J'aurais aimé être...
Vous ne comprenez pas. Je vais vous dire,
je suis très malin. Et je vais vous dire qu'en fait, c'est hyper intelligent.
C'est une stratégie,
c'est une stratégie. Ce qui est sûr, c'est que c'est assumé, puisque l'interview a été relue. Mais pourquoi incompréhension ? Parce que l'atout d'Emmanuel Macron en 2017, et c'est un élément très important pour tout responsable politique, c'était sa cohérence. Après, on pouvait l'approuver ou ne pas l'approuver. Mais sa cohérence, c'était une rupture par rapport au système politique en 2017. Et il y avait cohérence entre ce qu'était sa personnalité, son parcours, son âge, ce qu'était son positionnement politique, le ni gauche ni droite ou le et gauche et droite, et ce qu'était sa stratégie politique avec une nouvelle formation politique. Il y avait un alignement entre les trois. Or, la déclaration de cette semaine, elle vient briser cette cohérence sur le ton entre le Emmanuel Macron de décembre dernier qui dit « j'ai appris, il faut pas blesser
oui. »
et celui qui a très envie d'emmerder les Français, on ne comprend pas. Et entre le début et la fin de la même interview, au début de l'interview où il a très envie d'emmerder les non-vaccinés, et à la fin de l'interview, en parlant de l'extrême droite, il dit « il faut une discipline du débat citoyen, il faut lutter contre la fascination du conflit, du clash et du sensationnel ». Donc où est la cohérence? Et puis sur le fond, c'est ce que disait Natacha Polony, le lien entre l'irresponsabilité et la citoyenneté, moi c'est plutôt sur ce mot de citoyenneté, qui disent que ce n'est pas un comportement civique. Oui. Qui disent que, à la limite, que ce ne sont pas des bons citoyens. Pourquoi pas? Si on les exclut de la citoyenneté, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On les déchoit de leur droit de vote, de leur nationalité, on ne les soigne pas. Donc on rentre dans quelque chose qui, en fait, n'a plus de limite et qui, par ailleurs, c'est mon dernier mot, n'a pas d'efficacité. Évidemment, pas d'efficacité sanitaire, ça, il n'y a pas une personne qui n'est pas vaccinée qui va être convaincue d'aller le faire après les propos du président de la République. Mais y compris d'un point de vue politique, je vois que pour l'instant, les sondages ne bougent pas beaucoup, qu'en gros, les Français considèrent qu'ils sont d'accord avec ce qu'il dit, mais qu'elle a eu tort de le dire. Mais dans l'électorat de droite, qui est la cible d'Emmanuel Macron, cet électorat, plus que les autres, approuve son action, mais n'approuve pas sa personnalité. Or, c'est ce qu'il vient réactiver, et donc, encore une fois, je ne comprends pas.
Encore un mot, Natacha, sur
le sujet. Un mot rapide. Il y a également une dimension qui est ce jeu très dangereux sur ces fondamentaux profonds de la démocratie à des fins tacticiennes et politiciennes, qui, moi, me gênent énormément aussi. C'est parce qu'on a tous compris qu'en fait, Emmanuel Macron avait intérêt à utiliser le coronavirus dans cette campagne en fracturant les différentes oppositions et en les poussant dans leur retranchement. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est le problème de Valérie Pécresse qu'on a vu cette semaine, c'est-à-dire que il est admis désormais que un homme d'État ou une femme d'État est quelqu'un qui est pour la vaccination obligatoire ou le pass vaccinal et que sinon on sort du champ de la raison. C'est ça qu'a voulu introduire Emmanuel Macron, c'est-à-dire forcer ses adversaires à être soit d'accord avec sa politique sans être capable de proposer autre chose, soit d'être dans le camp des irresponsables. Premièrement, d'un point de vue sanitaire, c'est quand même extrêmement problématique parce que de fait, on n'a pas le temps d'y revenir, mais enfin, cette histoire de passe vaccinal, alors même qu'on est en train de s'apercevoir qu'on peut être vacciné et contaminé largement, est ahurissante.
Et on aura l'occasion d'y revenir dans une autre émission.
Et quand on en est à parler de quatrième dose au bout de 3 ou 4 mois, ça devient dingue. Mais surtout, ça veut dire que il y a dans sa façon de mener la politique une volonté claire que cette campagne n'ait pas lieu et que ses adversaires soient obligés de ne pas parler, puisqu'en fait, on ne peut pas aller sur d'autres sujets que celui-ci.
Alors, ses adversaires, ils parlent, elles parlent en l'occurrence. Je pense à Valérie Pécresse, candidate des Républicains à l'élection présidentielle. C'était ce jeudi, lors d'un déplacement dans le Vaucluse.
Il faut ressortir le Karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Et il faut traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté.
Alors, on ne va pas commenter tous les propos politiques qui ont suscité la polémique cette semaine et on aura l'occasion avec Bruno Patino dans un instant de parler de sujets de fond. Mais en l'occurrence, Natacha, vous vouliez revenir sur ces propos de Valérie Pécresse qui rappelait évidemment la formule employée par l'ancien président Nicolas Sarkozy en 2005.
Oui, en deux mots, rapidement. Ça illustre d'abord ce que nous venons de dire et ce que disait notamment Gilles, à savoir que, visiblement dans cette campagne, puisqu'il y a la tentation qu'il n'y ait pas de campagne, chacun y va de sa petite phrase pour exister et essayer d'imposer sa problématique. En gros, face au piège du coronavirus, Valérie Pécresse nous sort le Karcher. Bon. c'est pas seulement le Karcher, c'est du gros rouge qui tâche. Et c'est assez consternant de ce point de vue-là. Deuxième point, on est assez frappé quand on voit la campagne qu'essaye de mener Valérie Pécresse, finalement, de constater à quel point elle ressort absolument toutes les vieilles lunes de la droite. Toutes. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une droite qui a 15 ou 20 ans idéologiquement. Donc, on est dans l'affirmation d'un chiracisme dont on sait maintenant que le bilan est quand même assez léger. On est dans l'éloge du programme de François Fillon qui, déjà en 2017, s'appuyait sur un constat économique notamment qui avait 10 ans de retard. Et on est maintenant dans cette espèce de façon de bomber le torse. Alors certes, il y a derrière des propositions concrètes sur le nombre de places de prison, sur des investissements, etc. Mais c'est une lecture de l'état des quartiers qui semble, par son simplisme et son usage du slogan, d'une pauvreté absolue.
En l'occurrence, on ne va pas donc revenir sur tout ce qui a suscité la polémique cette semaine. Mais Gilles, est-ce que et ou comment est-ce qu'on pourrait imaginer une campagne présidentielle qui reviendrait au débat de fond, aux questions fondamentales au fond auxquelles les différents candidats devraient répondre ?
C'est à la fois très compliqué et très simple. Et il suffirait que les candidats à l'élection présidentielle fasse état publiquement de le diagnostic sur l'état du pays, sur l'état de l'Europe, sur l'état du monde, qu'il fixe les orientations qui sont les leurs, les objectifs qu'on peut collectivement se poursuivre, qu'il les illustre avec des propositions et que le débat se noue autour de ça. Ça s'appelle une campagne présidentielle.
Voilà. Ça semble très simple et il y avait justement cette semaine quelqu'un qui faisait un état des lieux assez alarmant. C'est la suite du duel.
Le grand face-à-face. Le duel.
Il faut relativiser les choses. C'est-à-dire, si on est à 3 ou 4% d'inflation, c'est pas un mal absolu. Dans cette inflation, il y a, je pense, du conjoncturel et du structurel. Il y a des goulots d'étranglement qui brusquement font que certains produits augmentent de manière déraisonnable. Et puis, il y a du structurel.
Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, qui était l'invité du grand entretien de France Inter ce jeudi. Et je cite, on est parti pour une longue période d'inflation. Fermez les guillemets, c'est évidemment l'un des grands enjeux de la rentrée. Un scénario du pire que décrivait le président du MEDEF sur Inter jeudi dernier. Natacha ?
Oui, alors scénario du pire, ça reste à nuancer. La question de l'inflation, elle est extrêmement intéressante puisqu'en gros, depuis plusieurs années, nous étions dans une inflation quasi inexistante et c'était même un problème, cette absence totale d'inflation. C'est-à-dire que on a, ne serait-ce que dans les mécanismes européens, l'idée tout à fait juste, selon laquelle une inflation autour de 2% est nécessaire. Et on était largement en dessous. Or, il faut bien comprendre que d'abord, il y a différentes sortes d'inflation. Et ensuite, la question est de savoir comment s'enclenche cette inflation et quelles sont ses conséquences. Si on en reste, en effet, à une hausse des prix qui se répercute sur le pouvoir d'achat des ménages, il va y avoir un énorme problème. Mais si cette hausse des prix enclenche une spirale de hausse des salaires, à partir du moment où ça ne dérape pas, et c'est là toute la complexité du jeu, ça peut devenir intéressant. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un système qui, jusqu'à présent, et notamment par l'absence d'inflation, favorise les rentiers. C'est-à-dire que l'ensemble de l'économie, à travers la maîtrise totale de l'inflation, qui, je le rappelle, est dans les missions de la BCE, c'est-à-dire que l'ensemble des institutions européennes sont pensées pour lutter contre l'inflation et absolument pas contre le chômage de masse. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, tout ça est fait pour favoriser ceux qui ont déjà le patrimoine, ceux qui ont déjà le capital, mais ça défavorise ceux qui ont besoin d'emprunter, ceux qui ont besoin de rentrer sur ce marché. Donc, une inflation qui permettrait une hausse des salaires et qui permettrait donc de rééquilibrer en faveur des travailleurs. La question est justement celle des négociations par branche qui ont lieu actuellement et qui, pour l'instant, ne sont pas suffisantes, puisqu'on voit très bien qu'on a des hausses de salaire proposées à 1% et quelques, 1,5%, face à une inflation qui, elle, atteint 3%. C'est donc tout cela qu'il va falloir négocier, mais l'inflation en elle-même n'est pas un mal, c'est un choix de société aussi, de savoir qui on veut favoriser, les rentiers ou ceux qui ne possèdent pas.
Gilles, avant de passer au débat.
Oui, depuis maintenant 20 ans, on avait une distorsion entre les chiffres, une inflation qui était historiquement faible et même à certains moments la crainte d'une déflation et la perception qu'en avaient les Français qui était d'une inflation qui était forte.
D'une vie toujours plus chère.
Et d'une vie qui était toujours plus chère. Aujourd'hui, on a un alignement avec ce retour de l'inflation. C'est vrai en France, c'est vrai également en Europe. On est à 5% d'inflation dans l'Union européenne en 2021. C'est le score le plus élevé, le chiffre le plus élevé depuis 20 ans. On est à 7% aux États-Unis, c'est le chiffre le plus élevé depuis 40 ans. Et c'est davantage encore dans beaucoup d'autres pays émergents. Les enjeux politiques qui sont derrière, il y a l'enjeu du pouvoir d'achat qu'a évoqué Natacha. C'est une question qui est revenue pour des raisons politiques avec le confinement et cette hiérarchie implicite des salaires que l'on a vu émerger. Elle revient pour des questions économiques et donc il va falloir, Natacha a raison, observer les propositions des différents candidats sur le SMIC et puis regarder ce qui se passe sur les négociations salariales. Et puis il y a un deuxième enjeu, c'est celui par lequel je termine, qui est celui de l'évolution des taux d'intérêt. C'est un enjeu évidemment pour les ménages qui veulent emprunter pour notamment pour acheter un logement, mais c'est un enjeu déterminant aussi pour le premier emprunteur qui est l'État. Mmh. On est aujourd'hui, pour le dire de manière très simple, dans une situation très bizarre dans laquelle l'État est de plus en plus endetté et rembourse de moins en moins parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Si par hasard il y a et c'est pas par hasard, s'il y a une hausse continue des taux d'intérêt, eh bien, les questions de remboursement de la dette et les questions de financement des enjeux dont on ne parle pas dans cette campagne présidentielle, notamment de la transition climatique, eh bien, ils se poseront de manière très différente.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Bruno Patino.